Je suis au Festival du film historique de Pessac avec la réalisatrice de Los Perros, qui est présentée en France comme, avec le titre Mariana. Bonjour, Marcela Saïd Carès.
Bonjour.
Vamos a hablar en francés, comme c'est pour les auditeurs en Suisse. D'accord. Et d'autant plus que vous arrivez de Suisse, vous venez de me confier que vous étiez au Festival Filmar en Amérique latine.
Oui.
Et que vous avez un peu pris froid dans nos Alpes.
Oui, il faisait un peu froid.
Et vous avez bu du chocolat chaud pour vous remettre, du chocolat suisse.
Non, mais non, ils m'ont offert une boîte de chocolat. Ah, ouais.
Alors, Los Perros, c'est votre deuxième long métrage de fiction. On se souvient du film précédent, El Verano de los Peces Volantes, l'été des poissons volants. Vous avez aussi fait des documentaires. Comment est né ce second long métrage de fiction?
Il est né du mon dernier documentaire, justement, que j'avais fait avec Jean Desserteau, où on suivait un homme qui avait été à l'époque de fait. L'homme a tout fait dans un centre de torture, enfin un centre où on a exterminé tout le Parti communiste. Et cet homme a tout fait avait un chef. Et son chef de l'époque, enfin, c'était pas. C'est lui qui était en charge du centre, on va dire. C'était Juan Morales Salgado, un militaire, qui à ce moment-là, il était capitaine, mais quand je l'ai rencontré, il était déjà ex-colonel. Et il était maître d'équitation dans son centre, dans une banlieue chic de Santiago. Et je voulais qu'il me donne une interview pour le documentaire. Et puis, il n'était pas très d'accord tout de suite. Et puis, j'ai eu cette idée de prendre des cours d'équitation avec lui pendant 2 ans, jusqu'au moment où il est allé en prison. Et voilà, c'est comme ça que de cette relation maître-élève est née un peu l'idée de ce film.
Et là, on comprend que vous avez, dans ce film, en fait, traité de la société bourgeoise ou de la société haute de Santiago. Et à travers le personnage de Mariana, j'avais l'impression qu'elle est déconnectée, qu'elle ne réalise pas tout de suite à qui elle a affaire. C'est le cas? C'est ce que vous vouliez susciter comme sentiment auprès des spectateurs?
Oui, c'est un film qui parle de la société bourgeoise qui a soutenu la dictature. Je voulais faire un film sur les complices civils de la dictature, et dont Mariana et sa famille font partie. Et Mariana, c'est une femme déconnectée de la réalité, mais aussi comme peuvent l'être toutes les bourgeoises en Amérique latine. Et pas que Mariana. En fait, le film est une sorte de huis clos dans ce monde. Et c'est
préservé.
À travers. Oui, très préservé, qui vit un peu en dehors de la réalité. Et elle se confronte peu à peu à quelque chose que c'est pas forcément qu'elle sait pas, mais ça l'intéressait pas forcément, ou elle croyait qu'elle n'avait rien à voir là-dedans, jusqu'au moment où elle aura l'épreuve qu'elle a quand même quelque chose à voir.
Voilà, on va pas tout déflorer du film, mais peu à peu, elle réalise qu'elle est plus impliquée qu'elle ne le pensait, mais en même temps, par moments, on a l'impression qu'elle a, alors qu'elle a 40 ans, que c'est une femme comme d'un âge mûr, on a l'impression qu'on a affaire à une fillette qui ne comprend pas, parce que justement, à l'époque de la dictature, c'était une fillette.
Peut-être.
Et oui, mais parce qu'elle est infantilisée par son père,
par son mari.
Infantilisée par son mari, et elle est un peu infantilisée par les hommes qui l'entourent. Mais je crois que c'est... les hommes au Chili, en Argentine, en Amérique latine, sont très machos, ils ont tendance à infantiliser les femmes, à les traiter un peu comme ses enfants, des femmes, des êtres qu'il faut protéger, qui parfois ne savent pas bien faire les choses.
Pas capables de discernement.
Oui, voilà. D'ailleurs, ils pensent vraiment que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. C'est des propos qu'il tient, que j'ai entendus.
Même dans les sociétés qui ont accès à la culture.
Oui, il y a tout. Hein. Moi, j'étais très surpris, même quand je faisais mon documentaire sur l'Opus Dei. À l'Opus Dei, même s'ils ne le disent pas, les femmes, ils sont considérées comme en étant moins intelligentes que les hommes. Mais de toute façon, la place de la femme dans la société chilienne, comme vous voyez à travers mon portrait de Mariana, parce que le film est avant tout le portrait d'une femme. Et c'est quelque chose qui n'est pas si loin, parfois, de la place qui tient la femme. Et dans une famille où, par exemple, la religion occupe aussi une place importante. Parce que quand on te voit dans des familles religieuses, dans les familles juives, dans les familles musulmanes, dans les familles même catholiques plus extrémistes, bah, la femme elle tient la même place. C'est une place de soumission.
Et reproductrice.
Exactement. Elle est là pour faire des enfants, et pour prendre soin des enfants et puis prendre soin de son mari et ses terres. Pas forcément pour... Elle doit plus se couvrir la tête. Même on arrive à ces cas extrêmes où ils doivent couvrir tout son corps. Mmh. Et enfin, voilà, c'est là on va dans des cas extrêmes, mais c'est assez étonnant quand on compare que la femme a toujours tenu un rôle compliqué dans nos sociétés contemporaines, même n'importe où dans le monde. Mmh. Alors là, vous allez découvrir le portrait d'une femme chilienne de la bourgeoisie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'étonne beaucoup de cette femme infantilisée ou je ne sais pas quoi, mais de toute façon, elle est assez, malgré tout, elle est assez libre. Ou elle essaye de se libérer tout au long du film sans y parvenir pour d'autres raisons. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que dans une société comme même ici en France ou en Angleterre, toutes ces femmes opprimées, elles vivent, enfin, et elles partagent... Tout ça avec, dans une société qui est supposée d'être éveillée pour qu'on soit égaux.
L'égalité, la parité.
Qu'on ait les mêmes salaires. Enfin, on m'appelle féministe parce que je dis que oui, bah, effectivement, oui, c'est un film féministe, peut-être, je dis, mais parce que je veux l'égalité des salaires, je veux l'égalité des droits, l'égalité de beaucoup de choses. Je trouve que ça, c'est normal. Mais il y a tellement des endroits, des foyers où ça, c'est pas seulement c'est pas normal, il n'y a pas question.
Et même la femme l'a intériorisé en fait, de par son éducation, de par.
Oui. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que les femmes, ils se laissent un peu abuser. Enfin, ils sont complices de leur situation.
Ouais. Et à propos de complicité dans votre film, justement, on dirait que les complicités ne sont pas équitables, elles ne sont pas réparties normalement, c'est ça ?
Enfin, non, je voulais parler... Les responsabilités ne sont pas équitables. Dans quel sens ? Enfin, 40 ans plus tard, on fait justice. Les militaires, ils sont en prison. D'ailleurs, pas tous, parce qu'on a mis en prison surtout juste les hauts gradés, ceux qui ont donné les ordres. Surtout les autres qui ont torturé, ils sont libres. Mais tous les complices civils qui ont prêté ces entreprises pour couvrir des crimes... qui ont prêté des camions pour transporter des morts, des cadavres, qui ont prêté ces bateaux pour qui ont été des endroits qui ont été utilisés comme lieux de torture, ils n'ont pas payé les prix, enfin ils n'ont pas des comptes à rendre à la justice. Et il me paraît que là les responsabilités ils ne sont pas partagées.
Et justement, quel est le sentiment au sein de la société chilienne? Puisque justement, la justice n'a pas été rendue et beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille attendent toujours justice. On pense aussi, bien sûr, à l'Argentine.
Je crois qu'il y a une seule scène, d'ailleurs, dans ce film où on est confronté à l'autre, ce que j'appelle l'autre, la victime. Et où on comprend très bien les sentiments d'impuissance qu'ils puissent avoir parce qu'ils sont en train de manifester en dehors de la maison du colonel. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose, d'ailleurs, qui existe dans mon pays. Ça s'appelle la FUNA. Et le slogan, c'est « Si no hay justicia, hay funa ». S'il n'y a pas de justice, il y a cet acte, on va dire. Et ces jeunes-là, ils se mettent devant la maison du bourreau en question. Ils ont eu leur adresse par une information. Et ils vont dire le nom du bourreau. Et l'idée, c'est informer les voisins, en fait. Ils disent, par exemple, « Juan Morales, il vit ici, au 52 rue Machin. » Et lui, il était le chef du centre d'extermination du Parti communiste. Il y a eu 119 disparus dans ces centres. Enfin, voilà, on donne tout son historial. Et l'idée, c'est que les voisins s'aperçoivent qu'ils vivent à côté d'un criminel. Voilà.
Et de susciter en fait une réaction civile pour rendre justice, c'est ça?
C'est très... Les voisins, en général, ils ne réagissent pas. Ça parle de la complexité de la réalité parce que cette personne qui vous croisez tous les jours, qui est assez aimable, dont vous avez parlé et au longueur des années, on découvre de jour à l'autre qu'il était un bourreau. Et parce qu'il y a eu tous ces gens-là qui ont venu de façon un peu violente le dire. Mmh. Alors, ses voisins, ils ne réagissent pas forcément très bien tout le temps. Mmh. C'est le cas. Et ce qu'il faut, c'est pas forcément. Il faut comprendre que si cette organisation existe, c'est parce que la justice est trop lente mmh. ou parce que la justice n'a pas été faite. So, idéalement, c'est pas l'idée. Une société comme la chilienne qui a besoin d'une organisation comme la FUNA. Ça veut dire qu'elle ne marche pas si bien puisque la justice n'est pas en train de faire son travail. Mmh. Si vous me posez la question, je préférais vraiment qu'il y ait justice et la véritable, pas forcément la FUNA, bien sûr.
Et ça s'applique à d'autres pays qui ont connu la dictature, d'ailleurs, en Amérique latine comme en Afrique.
Oui, bien sûr, oui. Mmh.
Et comment au quotidien les Chiliens le vivent? Quel est parce que de l'extérieur on a l'impression que maintenant ça va bien. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de fissures, de discrépances dans la société?
Bah, les Chiliens ne parlent pas trop du sujet, mais il y a une fracture sociale qui existe. C'est-à-dire si vous allez dans un dîner quelconque au Chili et vous touchez les sujets politiques, je vous assure qu'il va y avoir une petite bagarre à la table. Et vous allez avoir des surprises, des gens que vous n'imaginez pas vont défendre Pinochet, les autres là attaquent des adversaires, disent comment c'est possible, comment tu peux dire ça, mais il faut tourner la page. Alors c'est très simple, on va dans un dîner, on met les sujets politiques à table et vous allez découvrir que c'est un sujet encore très 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 compliqué.
Et très sensible.
Et pour certains tabous, évidemment.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, hein, qui ne veulent pas parler non plus.
Et à travers Mariana, on progresse avec elle en même temps, puisque petit à petit, elle prend conscience, elle ouvre les yeux. Et on a l'impression qu'elle essaye de se libérer d'une soumission, mais une soumission qui est, comme vous avez dit, maritale, une soumission avec son père. Donc c'est aussi symbolique de peut-être une évolution que doit faire la société en général.
Oui, elle essaye. C'est ça qui... elle essaye. Mais c'est pas pour autant qu'elle parviendra, mais elle essaye. Mais Mariana, pour moi aussi, c'est un peu la métaphore d'un pays, parce que Mariana, elle a peur. Et les Chiliens ont peur. La dictature rend peureux. Ouais. On comprend que c'est possible qu'il y a des méchants qui viennent, qui prennent des armes, qu'il y a des gens qui disparaissent, des choses horribles qui se passent. Alors ça a marqué toute une génération, on va dire.
Et vous appartenez plutôt à la génération post-dictature? Est-ce qu'il y a plus d'espoir de retrouver une démocratie saine et un respect des autres, disons, concitoyens?
J'appartiens à la génération de Mariana, en fait. Ah. Elle a plutôt mon âge. Et j'appartiens à une génération qui, beaucoup de mes amis, n'aiment pas trop forcément parler du sujet. Et puis, il y a une autre partie qui aime, comme moi. Et puis, il y a une génération qui vient juste derrière nous, qui s'intéresse vraiment à rien. Mm-hmm. Ils sont assez perdus, dirais-je. Par contre, la génération de qui a maintenant 25 ans, c'est une génération beaucoup plus politique, qui s'intéresse, qui n'ont pas cette charge du passé et qui veut lutter pour ses droits, pour une éducation gratuite, pour la santé... et pour la fin du système de prévision au Chili, qui est une véritable catastrophe. Et ça, c'est une génération qui, au jour d'aujourd'hui, est en train de faire de la politique au Chili. Mais ça, c'est tout nouveau. Ça date de peut-être 8 ans. Ouais. Ils doivent avoir 25, 26 ans maintenant.
Alors là, nous avons parlé de votre film qui était présenté à Filmar en Amérique latine à Genève, qui est présenté maintenant au Festival du film historique ici à Pessac. Vous êtes déjà en train de préparer un prochain film de fiction ou vous êtes de nouveau tourné vers le documentaire?
Non, je prépare plusieurs projets. Mais oui, j'écris la fiction, j'aime bien ça. Et j'écris quelque chose en France, pour la France. J'écris quelque chose plus psychologique et j'écris aussi une petite histoire, mais... qui a à voir avec la violence machiste aussi, un peu dans un village et dans une ville côtière, une ville de la côte pacifique au Chili. Ouais.
Et vous avez également travaillé à New York. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience de vivre aux États-Unis?
J'ai vécu très peu. Hein. C'était... Et puis, je crois que ce fut une autre époque. Et c'est une ville pleine d'énergie où on peut faire plein de choses. Et j'aurais pu rester, enfin, j'aimais bien cette ville. Sauf que j'ai tombé amoureuse folle de la France. de la langue, du pays, de la ville, de Paris. Alors, je me suis dit peut-être que ça ne sera pas les États-Unis, ça sera la France. C'est, effectivement, c'est des mondes à part. Mais bon, New York est aussi un monde à part à l'intérieur des États-Unis. Mm-hmm. Mais je ne regrette pas mon choix, de toute façon.
Vous vous épanouissez à Paris ?
Oui, et surtout, j'ai un fils qui a 13 ans.
Félicitations.
Oui, et voilà, j'ai un enfant qui est moitié français, moitié chilien, que j'adore. Alors, si la France m'a donné aussi, voilà, c'est un peu mon fils, c'est tout ce qui compte. Il est beau et intelligent comme tout. C'est la maman qui parle.
Et la maman lui transmet son héritage chilien.
Oui, bah d'ailleurs, oui, bien sûr, il est bilingue. C'est un enfant bilingue qui adore le Chili. On va tous les années. Parce que maintenant, je vis en France depuis 3 ans, mais il a vécu au Chili. Il a vraiment les deux cultures.
Et là, par rapport à la programmation, vous avez vu que c'est consacré à So British, l'Angleterre. Par rapport au cinéma anglais, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez comme... ça vous a apporté beaucoup par rapport à votre expérience comme cinéaste?
En fait, la vérité, c'est que je ne savais pas que les festivals étaient consacrés aux Anglais jusqu'au moment où j'arrive et je viens d'arriver. Mais j'aime bien les Anglais. Je les aime bien. Je trouve que c'est un monde à part. Alors, le cinéma anglais, je ne connais pas assez, sauf le cinéma de Ken Loach, ou le cinéma et un peu la comédie. Quelques auteurs, j'aime bien les théâtres, surtout, je crois que toute l'expérience du théâtre anglais est formidable, mais je ne peux pas vraiment savoir. À moi, spécialement le cinéma anglais, je ne suis pas très sûre. Je crois que je suis beaucoup plus influencée par d'autres auteurs, même américains, comme Cassavetes, que j'aime beaucoup, et j'aime Bergman, qui n'a rien à voir justement avec les Anglais. Et des Français, Godard, qui est bon, Suisse, voilà. Godard, qui est Suisse. Je ne vais pas quand même le mettre en France.
Certains ne se l'approprient, mais vu comme il parle avec son accent...
Non, mais je sais qu'il est Suisse. Et vous saviez que Godard, il a un frère qui habite au Chili. Ah bah oui, ouais. Je vous apprends des choses.
Mais oui, à Santiago ou...
À Santiago, oui, qui est médecin. Et puis, voilà, c'est d'autres types de cinéma qui m'a... Même Haneke, j'aime beaucoup le cinéma de Haneke. Et j'aime d'autres auteurs, en fait. C'est pas les Anglais, en fait, dans mon répertoire de directeurs fétiches. Il n'y a pas les Anglais.
Et les Sud-Américains?
Quelques Sud-Américains, oui, j'aime beaucoup. Ray Gadas. Qui d'autre, j'aimais tout au début Eliseo Subiela, qui
même pensais, si
son film qui sont faits, ils sont un peu datés, et puis mais j'aimais beaucoup son cinéma. Et
Despabilate, mi amor, no te vayas sin decirme a dónde vas.
La el lado oscuro del corazón, ouais, ça. Mais qui l'autre, bon, maintenant il y a de la nouvelle génération, Lucrecia Martel est très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son cinéma. J'ai des compatriotes aussi. Hein. Enfin, maintenant, on est plusieurs à faire du cinéma chilien. Ça, c'est, tout le monde s'étonne parce qu'avant, il n'y avait pas de cinéma chilien. Mais il y a Pablo Larraín, que j'aime beaucoup, et puis Sébastien Lelio.
Una mujer fantástica qui a été primée à Berlin.
Exactement. Et puis, il y a des femmes aussi qui font du cinéma. Il y a Marielle Rivas qui vient de sortir un nouveau film, ou Pepa San Martín qui a fait Rara. Mais bon, ça commence, on commence tout juste.
Donc, le cinéma chilien est en pleine progression?
Je ne sais pas si en pleine progression, mais on se débat. On n'a pas une industrie de cinéma, on fait très peu. Il y a les fonds chiliens, il y a très peu de films par an, vers 10 films, voilà. Et c'est pas énorme. Et puis les restes sont faits un peu avec des privés, parce que c'est des films grand public. Mais les films d'auteur, il n'y a pas plus de 10 films qui sont aidés par un.
Ça va peut-être se développer, puisque le cinéma se porte apparemment bien.
pour ça, il faut des mesures politiques. Et il faut du courage politique, parce qu'il nous faudrait avoir quelque chose comme le CNC en France, au Chili. Mais pour ça, il faut changer la loi. C'est-à-dire qu'il faudrait faire payer des impôts au ticket, et que ce soit voilà, les cinémas américains, les cinémas étrangers qui passent en salle, qui financent les cinémas chiliens, comme ça se passe en France, comme ça se passe en Argentine. En Argentine, ils ont le même système, l'INCA, et c'est comme ça que les cinémas se financent. Je trouve que ça, c'est pas seulement c'est mieux, mais c'est normal. C'est bien que les cinémas financent les cinémas. Et pour ça, les Chiliens doivent avoir, les prochains gouvernements, quel qu'il soit, parce qu'on est en pleine élection, doivent avoir le courage politique de dire, bon, peut-être s'opposer au TLC avec les Américains, et pour qu'on puisse changer les règles du jeu.
Merci beaucoup, Marcela Saïd-Carès. C'était un plaisir. Et on se réjouit de découvrir vos prochains projets. Merci.
Merci à vous.